En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Bonjour et bienvenue, je suis Sonia Oulad Ben Saïd sur IDFM Radio et à la technique Francky. Excellente journée sur IDFM Radio, sur le 98 FM, sur idfm98.fr pour le site internet et l'appli IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, l'émission qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Selon le célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi, mais force est de constater que les lois changent régulièrement, se complexifient et que chaque cas est unique. Alors pour vous aider à y voir plus clair, je recevrai chaque mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à toutes vos questions, chacun dans leur domaine d'intervention respectif. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, que l'on soit salarié, employeur indépendant ou simplement citoyen, le droit du travail. Véritable pilier de notre société, il fixe les règles qui organisent les relations professionnelles, protège les travailleurs et encadre les responsabilités des entreprises. Pour en parler, pour éclairer ces enjeux et répondre à vos questions, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui trois avocats du barreau du Val d'Oise qui vont partager avec nous leur expertise. Bonjour Maître Laetitia Gernaise.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté une nouvelle fois d'intervenir sur l'émission Tous les droits, cette fois en droit du travail. Bonjour Maître Raphaël Cabral.
Bonjour Sonia.
Merci également d'avoir répondu de nouveau positivement à ma sollicitation. Nous vous avions reçu il n'y a pas très longtemps en droit public et je me réjouis aujourd'hui de vous recevoir pour cette nouvelle émission. Bonjour Maître Tiphaine Selten.
Bonjour Sonia.
Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. J'ai même eu votre numéro depuis un petit moment pour le droit du travail, donc je suis contente que vous soyez ce matin au micro d'IDFM Radio. Merci à tous les trois, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de l'émission Tous les droits. Alors cette émission commence toujours par une présentation de mes invités, comment ils sont devenus avocats, quelles études ils ont fait, pourquoi ils se sont inscrits au barreau du Val d'Oise. Maître Laetitia Gernaise. Ah, Laetitia Gernaise. On a prêté serment ensemble.
Oui.
C'est-à-dire hier, Laetitia,
hier.
N'est-ce pas? Alors, donc, on a prêté serment ensemble, c'était donc hier, mais oui. Plus précisément
en 2009.
Voilà, donc le temps file. Votre cabinet est situé où, Maître Gernaise?
À Enghien, rue de l'Arrivée, à côté.
Et vous êtes associé avec...
Vincent Payella.
Et vous exercez dans quelle matière?
Droit de la famille, droit du travail et Vincent, droit immobilier, essentiellement.
Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur votre parcours? Comment vous êtes devenue avocate? Pourquoi dans ces domaines d'intervention?
Alors, je suis devenue avocate parce que j'avais envie de défendre et d'aider les gens. J'aimais le droit en plus. Quand j'ai fait mes études, je trouvais ça très intéressant. J'ai adoré faire mes études de droit. J'étais à Cergy. Je me suis installée d'abord à Pontoise. J'étais collaboratrice dans deux cabinets différents. Et ensuite, j'ai ouvert mon cabinet à Enghien et dans ces domaines d'intervention, parce que je trouve que c'est les domaines où on aide les gens au plus près de leur quotidien. Et c'est des domaines que j'apprécie exercer.
Et vous plaisez à Enghien-les-Bains?
Beaucoup.
Ça fait combien de temps que vous êtes à Enghien-les-Bains d'ailleurs?
12 ans.
Voilà, le temps passe définitivement beaucoup trop vite.
Oui.
Merci beaucoup pour cette présentation et ce partage. Maître Raphaël Cabral, alors vous avez prêté serment quand, vous, confrère?
2013.
Voilà. Le temps passe vite aussi. Alors, votre cabinet est situé à Pontoise.
Oui.
C'est ça. Et vous exercez, donc, rappelez-nous vos domaines d'intervention.
J'exerce principalement en droit du travail et en droit de la fonction publique.
D'accord. Et côté employeur et côté salarié?
Alors, je travaille pour des syndicats, pour des salariés principalement. Après, c'est pas exceptionnel que je défende des employeurs devant le conseil de prud'homme.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre vocation, si c'en est une, ou de comment vous avez embrassé cette profession?
Alors, le métier d'avocat, c'était véritablement pas au départ une vocation, et c'est au fur et à mesure des années à l'université, je m'étais dit, bon, il faut bien que je fasse quelque chose de ces études. Et pour tout raconter, le droit du travail, c'était pas du tout ma spécialité que j'avais étudiée à l'université. Et j'ai vraiment découvert cette discipline-là sur le tas. Et j'ai trouvé ça à la fois très intéressant, très humain. Parce que quand vous défendez des agents publics ou des salariés, il y a quand même quelque chose de très très humain et à la fois technique. C'est-à-dire que ce n'est pas exclusivement une matière humaine. On peut aussi se réfugier derrière la technicité du droit qui est constant, qui évolue d'année en année.
Merci pour toutes ces précisions. Et je précise que vous êtes chargé d'enseignement également à l'Université de Cergy. Alors, qu'est-ce que vous enseignez
Alors, j'enseigne l'introduction au droit aux premières années. J'ai donné mon premier cours d'ailleurs hier et j'en suis ravi. Je me souviens encore de mon chargé de TD en première année. Donc, j'espère que ça sera exactement la même chose 10, 20, 30 ans plus tard avec les personnes que je suis.
C'est vrai, sans vous mettre de pression, on se rappelle tous de nos chargés de TD. Il y en a qui nous marquent plus que d'autres et franchement, je trouve que c'est... Enfin, moi, je me rappelle de tous mes chargés de TD qui étaient souvent d'ailleurs soit, oui, des professeurs, soit des avocats, des magistrats qui venaient nous former à l'université de droit. Merci pour ce partage. Maître Tiphaine Selten, alors c'est la première fois que je vous reçois. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Comment vous êtes devenue avocate? Votre cabinet est situé à
Pontoise.
Très bien.
Du coup, moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que initialement, j'ai fait un master en droit international et européen, public et privé. Donc, le droit du travail n'était pas du tout mon objectif d'études et de vie professionnelle. Et puis j'ai fait des stages un peu divers et variés. Et donc, je me suis dit, et c'est également un collègue que j'avais eu pendant un message qui m'avait dit, bah, je trouve que tu as une certaine fibre sociale. Le droit du travail, ça te correspondrait assez bien. Et finalement, c'est aussi ce que j'ai fait pendant mes stages. Et c'est vrai que j'y ai trouvé un épanouissement certain, une certaine volonté de défendre les salariés dans un premier temps, parce que c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire. Et ma première collaboration était dans un cabinet qui défendait effectivement des salariés dans tout l'aspect de leur vie, mais essentiellement évidemment devant les juridictions sociales. Et c'est ce qu'on a continué nous ensuite à faire. Et c'est vrai, voilà, ça correspond assez bien. Aujourd'hui, c'est vraiment une matière qui me plaît. Je rejoins mon confrère à la fois très technique et en même temps très humaine. C'est aujourd'hui un domaine d'activité où il y a beaucoup à faire, toujours en évolution, et du coup extrêmement riche.
Et vous exercez aussi en droit de la sécurité sociale, qui est un peu le pendant des fois du droit du travail devant les juridictions du pôle social.
Tout à fait, c'est ça, effectivement, parce que on a de plus en plus de salariés aujourd'hui qui sont victimes soit d'accidents de travail, soit de maladies professionnelles. Et donc, c'est vrai qu'ils viennent nous voir de plus en plus pour ces problématiques. Et donc, on les accompagne, notamment sur ces sujets, devant les juridictions du pôle social, à Pontoise ou ailleurs. Selon, évidemment, leur lieu de domiciliation.
Oui, parce qu'on y reviendra, les avocats du barreau du Val-d'Oise peuvent intervenir devant tous les conseils de prud'hommes et tous les pôles sociaux de France, puisqu'il n'y a pas de postulation. Enfin, voilà, pour ça, c'est une règle qui est importante de rappeler aux auditeurs de cette radio. Et vous avez également des fonctions ordinales. Alors, vous participez activement à la vie de notre ordre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces fonctions?
Alors, je suis élue du comité jeunes barreaux depuis 2023. C'est des mandats de 2 ans. Donc, en fait, on fait le lien entre les jeunes avocats de moins de 10 ans au sein du barreau du Val-d'Oise et le conseil de l'ordre pour faire remonter leurs problématiques et également leurs interrogations et leurs envies pour essayer d'avoir un ordre qui soit le plus convivial possible. De l'extérieur, on a souvent l'impression que les avocats sont souvent renfermés sur eux-mêmes, mais en fait, c'est un exercice libéral où on est aussi très souvent seul, et donc avec l'ordre, effectivement, ça nous permet, et ce terme de confraternité est très important pour nous, de le remettre au cœur de notre exercice pour que chacun se sente entouré et que vive pleinement et de manière agréable cette profession, pas toujours facile. Donc effectivement, élu du jeune barreau. Et à ce titre, j'ai eu l'opportunité, grâce à monsieur le bâtonnier Stéphane Alémo, d'être responsable de la commission CPH pendant 1 an. Et cette année, grâce à madame la bâtonnière Annelise Vistup-Gilbert, d'être responsable de la commission Pôle Social, tout en restant membre de la commission CPH, et effectivement de pouvoir échanger de manière plus directe avec les juridictions et d'essayer de créer des liens, puisque on ne s'oppose pas, on œuvre tous ensemble à une même justice. Et c'est vrai que du coup, ces fonctions ordinales, tant vis-à-vis des confrères que vis-à-vis des juridictions, sont extrêmement enrichissantes au quotidien.
Merci pour votre engagement. Je le rappelle souvent au cours de cette émission, le barreau du Val d'Oise est un barreau très structuré, très vivant, où des commissions ont été créées en fonction des domaines d'intervention et qui font les liens avec les juridictions. Donc, vous l'avez rappelé, il faut que ça fonctionne en bonne intelligence pour tout le monde. Donc, les magistrats, les greffiers, les avocats se réunissent sur des thématiques ou s'entretiennent de difficultés qu'on peut rencontrer devant les conseils de prud'homme ou devant le pôle social. Donc merci pour cet engagement qui nous est très utile à nous après en tant que praticien lorsqu'on a affaire à ces domaines d'intervention. Je vous propose de marquer une première pause musicale avant de nous retrouver pour la suite de notre émission.
FM Radio 98 FM.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. Ce matin, je reçois trois avocats du barreau du Val d'Oise en droit du travail, maître Laetitia Gernaise, maître Raphaël Cabral, maître Tiphaine Selten, qui ont accepté de répondre à ma nouvelle invitation pour ce nouveau numéro. Maître Laetitia Gernaise, j'ai reçu des questions à votre attention. La première est la suivante. Je travaille dans une entreprise en cessation de paiement et la liquidation judiciaire est à craindre. Comment se déroule la procédure de licenciement économique ?
Alors, la procédure de licenciement économique, elle va différer en fonction de savoir si la liquidation judiciaire a été prononcée ou s'il y a un maintien provisoire de l'activité au sein de l'entreprise. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, tous les salariés vont être licenciés selon une procédure qui va être mise en place par le liquidateur. Il va d'abord solliciter la consultation. Alors, ça va différer aussi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça dépend combien il y a de licenciements à prévoir, entre 2 et 9, plus de 10, et combien il y a de salariés dans l'entreprise. entreprise, mais dans les grandes lignes, il va falloir solliciter l'autorisation du CSE en indiquant des éléments relatifs à l'activité de l'entreprise, aux difficultés qu'elle connaît. Une fois qu'on obtient l'autorisation du CSE, une fois qu'on a fait la réunion, avec le CSE, on sollicite l'autorisation du juge commissaire pour procéder au licenciement de tous les salariés. Et ils vont recevoir alors une convocation à un entretien préalable. Pas toujours quand il y a plus de 10 salariés, il n'y en a pas, mais sinon il y a une convocation à un entretien préalable au cours duquel on explique les difficultés économiques, la liquidation judiciaire. De toute façon, le licenciement est automatique. On propose une possibilité de CSP, contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié aura alors 21 jours pour l'accepter ou refuser ce contrat qui modifie ensuite ses droits une fois qu'il n'est plus salarié dans l'entreprise. Et à l'issue, l'aide de licenciement économique est envoyée à chacun des salariés.
C'est un licenciement qu'on peut contester aussi, j'imagine.
C'est un licenciement qu'on peut contester.
Si on conteste le motif économique du licenciement.
Oui.
Bon, ça doit être difficile à trouver, mais oui. Bon, j'imagine que on peut le contester, ou en tout cas contester la procédure, peut-être. Des fois, vous avez rappelé qu'il y avait une procédure à respecter en fonction du nombre de salariés au sein de l'entreprise, donc voilà. Je précise quand même que si on se trouve dans cette mauvaise posture en tant que salarié, on peut venir vous voir, vous pouvez faire des consultations pour rappeler les droits des salariés dans ce type de situation.
Oui, bien sûr, je laisse mes confrères compléter hein, s'il y a des éléments qui sont manquants. J'ai parlé un peu rapidement, il y a peut-être des éléments qui peuvent être ajoutés par mes confrères.
Sur le licenciement économique. Non, mais c'est l'occasion aussi de rappeler, je le fais souvent à ce micro, on vient souvent voir les avocats en droit du travail quand on est licencié ou sanctionné. On vient rarement les voir, enfin, je parle sous votre contrôle, en amont. Voilà. Et il faut rappeler que les avocats en droit du travail peuvent effectivement vous rappeler vos droits dans le cadre de consultation, juridique. Merci pour ces précisions, Maître Laetitia Gernès. Maître Raphaël Cabral, nous avons reçu une question à votre attention. Nous sommes saisis d'un auditeur qui nous indique « Je viens d'être licencié pour faute grave. Est-ce que je peux bénéficier des allocations chômage ?»
Alors déjà, je pense qu'il faut déjà rappeler aux auditeurs ce que c'est que la faute grave. Ça veut dire que l'employeur s'est placé sur un terrain disciplinaire, c'est-à-dire qu'il reproche en réalité à son salarié son comportement, pour faire simple, et il estime que la faute de comportement du salarié justifie qu'il soit mis immédiatement fin au contrat sans qu'il ait à réaliser son préavis. Donc ça veut dire que le salarié sort des effectifs à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Et dans ces conditions, et ça pose absolument aucune difficulté, le salarié, même licencié en faute grave, bénéficie des allocations chômage.
D'accord.
Donc il peut s'inscrire au Pôle emploi, il peut avoir donc ses indemnités chômage sans aucune difficulté.
Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les délais qu'on a pour contester un licenciement pour faute grave?
Alors, c'est 12 mois, c'est tout licenciement ou toute rupture. C'est 12 mois à compter donc de la date de rupture et pas à l'issue du délai de préavis. Donc ça, c'est important parce que quand vous avez un préavis de 2 mois ou 3 mois, voire 4 mois, ça réduit d'autant plus le délai. Donc c'est 12 mois à compter de la notification du licenciement, étant précisé que un licenciement peut être contesté devant le conseil de prud'homme par le salarié lui-même, par l'intermédiaire d'un avocat, par un représentant, un conseil syndical. Donc il n'y a pas d'obligation d'avocat, mais c'est vivement conseillé parce que, bien évidemment, c'est un métier. Il y a des chausse-trappes procéduraux, il y a des difficultés. Donc c'est vrai que c'est fortement conseillé de saisir un avocat pour contester un licenciement.
Donc vous avez déjà rappelé, parce que là encore, je le rappelle, il y a souvent des délais pour saisir les juridictions. Donc un an à compter de la notification de la lettre de licenciement. Avoir recours à un avocat en droit du travail, vous l'avez rappelé, n'est pas obligatoire sur cette matière, mais fortement recommandé. Est-ce que vous pourriez rapidement rappeler à nos auditeurs la procédure en droit du travail, donc les procédures de mise en état, puis de jugement? C'est pas toujours simple à comprendre, ça, d'ailleurs.
Alors, la procédure classique, c'est une procédure où, par exemple, pour un licenciement, le salarié, par l'intermédiaire, par exemple, de son avocat, va saisir la juridiction. la juridiction va enregistrer le dossier et convoquer les parties, l'employeur et le salarié, à une première audience qui s'appelle une audience de conciliation. Cette audience de conciliation, elle est tenue par deux juges dans un bureau, donc c'est en conseil, c'est pas public, et cette audience va permettre à la juridiction de vérifier s'il y a une possibilité que les parties transigent ou pas. Si les parties ne transigent pas, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de négociation possible en cours de procédure, mais ça veut dire que le juge, manifestement, va devoir trancher le litige. Et s'il tranche le litige, bah, il va fixer des calendriers de procédure. Ça va être un ping-pong où salariés et employeurs vont s'échanger leurs conclusions, donc leurs arguments juridiques, leurs arguments de fait et leurs pièces. Jusqu'à un moment où le juge, le conseil de prud'homme, va estimer que il n'y a plus lieu d'échanger et qu'il faut entendre l'affaire. Et là, c'est la deuxième audience qui se déroule, la plus importante, ça s'appelle le bureau de jugement. Il y a donc quatre conseillers, deux représentants employeurs, deux représentants salariés qui tiennent cette audience, au cours de laquelle, voilà, on va évoquer les demandes du salarié. Donc ça, c'est la procédure classique. Après, il peut y avoir des procédures accélérées, alors c'est assez rare, mais par exemple en matière de requalification de CDD, bah on passe pas par un intermédiaire, en tout cas un préalable de conciliation lorsqu'on fait une prise d'acte. Donc il y a toute une série d'hypothèses, mais qui sont véritablement limitées, où il n'y a pas ce préalable de conciliation et la procédure est accélérée et vous allez directement en réalité plaider votre dossier devant le bureau de jugement.
Et alors Maître Tiffaine Selten, vous voulez réagir?
Ce que vient de dire mon confrère, effectivement, je voulais juste mentionner, parce que vous l'avez évoqué, cette audience de mise en état qui, effectivement, pour certains salariés, est très abstraite. Comme dans la continuité de ce que vient de dire mon confrère, une fois que les parties ont échangé leur argumentaire, ce n'est pas le cas devant toutes les juridictions prud'homales, mais c'est le cas notamment dans le Val d'Oise, on a cette audience intermédiaire qui sert à vérifier si les parties ont échangé tout ce qu'elles avaient à s'échanger, ce fameux principe du contradictoire, et donc elles sont prêtes à plaider, ce qui permet donc d'aller devant le bureau de jugement, cette audience de plaidoirie, en étant sûr que tout a été dit au préalable entre les parties et donc qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise le jour du jugement. Mais voilà, c'est vrai que ça n'existe pas encore partout. Mais dans le Val d'Oise, c'est une pratique maintenant bien posée et établie.
Oui, et puis ça nous astreint tous les conseils, voilà, les parties à respecter ces calendriers. Et puis que quand les dossiers arrivent en bureau du jugement, ils sont effectivement plaidés.
Tout à fait.
Ça permet aussi pour les juridictions d'avoir des dossiers qui vont vite parce qu'ils ne présentent pas de difficultés, ou des dossiers où il y a une mise en état qui est un tout petit peu plus longue et qui nécessite davantage de temps. Donc ça permet de calibrer au mieux les dossiers. C'est vrai que par exemple, devant les juridictions à Paris, au Conseil de Prud'homme de Paris, bah, que votre dossier soit compliqué ou qu'il soit excessivement simple, c'est le même tarif, c'est-à-dire qu'on va vous fixer un calendrier de procédure et déjà une audience pour plaider.
D'accord. Donc les pratiques diffèrent d'une juridiction à l'autre.
C'est le président du Conseil de Prud'homme qui décide, parce que le texte lui laisse la liberté de fixer des audiences de mise en état, des clôtures ou de renvoyer directement pour plaider lorsque vous êtes en bureau de conciliation.
Je vous remercie pour ces précisions, parce que souvent les clients viennent vous voir en vous disant « mais moi j'ai un copain au Conseil de Prud'homme de Paris, ça se passe pas du tout comme ça ». Donc rappelez la spécificité aussi de chaque juridiction, d'ailleurs d'où l'avantage de bien connaître ces juridictions, donc les avocats du barreau du Val d'Oise qui peuvent aussi intervenir très régulièrement dans les conseils de prud'homme du ressort de la Cour d'appel de Versailles, connaissent bien leur juridiction et peuvent effectivement être peut-être plus précis dans leur explication et dans leur pratique. Donc je vous remercie pour toutes ces précisions. J'en profite à cette occasion, parce que c'est aussi des doléances, mais on en est tous tributaires, sur ces délais de jugement, ces délais d'audiencement. Rappelez que quand le dossier est plaidé en bureau de jugement, on n'a pas forcément la décision tout de suite. Maître
non.
Raphaël Cabral, vous
voulez réagir ? Non, ça dépend véritablement de la date de mise en délibéré, qui peut être plus ou moins longue. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. J'ai plaidé début septembre à Nanterre. Je sais pas, le 3 ou 4 septembre, j'aurai un jugement rendu à la fin du mois de janvier. Et le début de semaine, j'ai plaidé à Saint-Germain. Et donc, j'aurai un jugement un mois et demi après. Donc, ça dépend véritablement les juridictions. Ça dépend aussi les formations. Elles peuvent avoir une mise à disposition du jugement qui peut être entre, allez, un mois et demi au plus rapide. Et parfois, ça peut être 4 mois. Si cette mise à disposition n'est pas prorogée, repoussée.
Oui, parce que j'ai connu une époque où il y avait des prorogations, de prorogations, de prorogations, notamment pour ne pas citer Bobigny. À l'époque, j'intervenais là-bas et je. Voilà. Bon, c'est donc voilà, bien connaître aussi ces délais. Et dernière question, est-ce que l'un de vous peut nous rappeler le délai pour faire appel quand on reçoit la notification d'un jugement? Ne vous battez pas. Je vais.
Un mois.
C'est un mois, c'est un mois à compter de la notification du jugement pour faire appel devant la cour d'appel du ressort compétente. Merci pour toutes ces précisions exhaustives. Je vous propose de faire une petite pause en musique et nous poursuivrons ensuite les questions sur le droit du travail.
Aujourd'hui je suis sans nouvelles, j'ai pas de message. On écoutait Aznavour ou Aretha Franklin, mais bon tranquille. Je commence à m'y faire, j'avance et je passe des caps. Ton regard vaut plus que toutes les caméras. Toujours dans mon cœur, mais t'es plus dans mes bras. Je m'ennuie, mais bon tranquille. J'aurais pu t'aimer, t'aimer comme ça. Mais j'ai du mal à aimer, aimer comme toi. Mais bon y'a plus d'intérêt si je suis plus le seul à t'aimer. Même si je me dis que personne ne peut t'aimer comme moi. J'aurais pu t'aimer, t'aimer comme ça. Mais j'ai du mal à aimer, aimer comme toi. Mais bon y'a plus d'intérêt si je suis plus le seul à t'aimer. Même si je me dis que personne ne peut t'aimer comme moi. Elle me disait tout va peine et peine. Pourquoi je l'ai laissé seule? Elle voulait m'apprendre à aimer. Mais moi je n'apprends que mes erreurs. Je passais la nuit à traîner et reste au loin pendant des heures. Je te fais genre que tout va peine et peine. Mais bon en vrai j'ai le seul. J'ai le sentiment qu'elle m'évite. Au final c'est tout ce que je mérite. 3h du mat dans la street, auto automatique, je fais des tours sur le périph. Y'a comme une ambiance électrique, je crois, c'est gravé dans ma génétique. 3h du mat dans la street, auto automatique, je fais des tours sur le périph. J'oublie tout, je sors quand vient le samedi soir. Autour les gens dehors ne font que me parler tort. J'ai du mal à croire que c'est la fin de l'histoire. Je m'enivre, mais bon tranquille. Au réveil le moral est dans un sale état. Je réalise des choses qu'hier je ne voyais pas. Aujourd'hui j'ai le blues quand j'écoute Aretha Franklin, mais bon tranquille. Elle me disait tout va peine et peine. Pourquoi je l'ai laissé seule? Elle voulait m'apprendre à aimer. Mais moi je n'apprends que de mes erreurs. Je passais la nuit à traîner et reste solo pendant des heures. Je te fais genre que tout va peine et peine. Mais bon, en vrai, j'ai le seum. J'ai le sentiment qu'elle m'évite. Au final, c'est tout ce que je mérite. 3h du mat dans la street, auto automatique, je fais des tours sur le périph. Y'a comme une ambiance électrique, je crois, c'est gravé dans ma génétique. 3h du mat dans la street, auto automatique, je fais des tours sur le périph.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. Ce matin, je reçois trois avocats du barreau du Val d'Oise en droit du travail et en pôle social. Et nous poursuivons avec la question d'un nouvel auditeur pour maître Tiphaine Selten. Vous êtes prête?
Je suis prête.
La question est la suivante. Je suis couvreur. Je suis tombée du toit d'une maison alors que je débutais ma journée de travail. Est-ce que mon employeur peut être inquiété?
Alors, à peu près tous les avocats, je dirais, j'aurais envie de répondre, ça dépend, mais pas tout à fait. Il faut d'abord s'interroger sur la question des équipements personnels de sécurité, ces fameux EPI. équipements de protection individuelle plus exactement, qui sont obligatoires dans un certain nombre de domaines d'activité. C'est sûr que quand on est couvreur, a priori, il y en a. Il y a un certain nombre de mesures de sécurité qui doivent être mises en place par l'employeur. Et à partir du moment où vous avez finalement un accident alors que vous avez débuté votre journée de travail, effectivement, on peut légitimement s'interroger sur la responsabilité de votre employeur sur ce qui s'est passé. À ce moment-là, de choses l'une, en fonction exactement des événements, il y aura potentiellement deux possibilités, soit uniquement devant le conseil de prud'homme en ce qui concerne l'obligation de maintenant qu'on appelle de sécurité de l'employeur, qui est une obligation de moyens, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas à tout prix empêcher tout accident, mais il doit avoir tout fait pour éviter les risques. Ou le cas échéant, la deuxième procédure qui est envisageable, c'est ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur, la reconnaissance en faute inexcusable. C'est dans ce cas-là devant le pôle social du tribunal judiciaire. Mais pour cette procédure, il faut s'assurer que l'employeur avait effectivement connaissance des risques. Si vous êtes couvreur, on peut imaginer effectivement qu'il a connaissance qu'il y a des risques inhérents à cette activité. On doit ensuite vérifier s'il a pris les mesures nécessaires pour prévenir ces risques, donc vérifier s'il existe ces EPI, s'il s'assure que vous les utilisez, s'il existe un échafaudage sécurisé, et à défaut, s'il n'a pas pris ces mesures de protection et qu'il y a eu un accident qui peut donc être relié de manière certaine à la responsabilité de l'employeur, envisager cette procédure plutôt de reconnaissance en faute inexcusable qui découle le plus souvent et généralement d'une reconnaissance préalable d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
D'accord. Et il y a des délais pour engager des actions Alors, reconnaissance de la faute inexcusable, j'imagine.
Pour ce qui concerne la procédure de faute inexcusable, effectivement, on a un délai qui est en fait de 2 ans, soit à partir de l'événement lui-même, soit à partir de ce qu'on appelle la consolidation de l'état de santé, parce qu'au bout d'un moment, la sécurité sociale va considérer que votre état est dit stable. Ça ne veut pas dire que vous ne souffrez plus. Cela veut simplement dire que votre état n'évolue plus, c'est-à-dire qu'il ne s'améliore pas, mais qu'il ne s'aggrave pas. Et donc, la sécurité sociale va vous adresser un courrier pour vous dire « Nous considérons qu'à telle date, votre courrier et votre état de santé est consolidé et va vous attribuer un taux d'incapacité ». Et donc à partir du moment où vous avez reçu ce courrier, vous avez effectivement ce délai de 2 ans et on a également un troisième point départ de ce délai de 2 ans, c'est celui où vous arrêtez de recevoir les indemnités journalières de la Sécurité sociale. Il y a quelques cas particuliers, mais de manière générale, voilà, c'est 3 délais qu'il faut effectivement avoir en tête parce que parfois on laisse passer beaucoup de temps. Un délai de 2 ans, ça peut paraître assez long, mais ça peut être aussi très rapide quand on est pris dans tout ce qui est soins de santé, etc., quand les accidents peuvent être avoir des conséquences assez importantes. Donc voilà, effectivement, ce délai de 2 ans à avoir en tête pour ne pas passer à côté de la réparation qui pourrait vous être attribuée.
Merci pour ces précisions. Donc là, on faute inexcusable, donc on est devant le pôle social.
C'est
alors
ça.
Expliquez peut-être si le pôle social, c'est pas le conseil de prud'homme, c'est encore une autre
oui.
juridiction dans la juridiction. Enfin,
tout à fait. Effectivement, c'est un pôle en fait qui existe au sein du tribunal judiciaire. Le compétent est celui, enfin le pôle social compétent est celui de votre lieu de domicile, celui où vous êtes affilié à la sécurité sociale. Et donc, c'est un pôle dédié à tout ce qui relève de la sécurité sociale. C'est pour ça qu'on l'appelle pôle social. On y trouve aussi bien des litiges relevant de l'URSSAF, de l'assurance maladie, de la MDPH, mais donc notamment tout ce qui relève de des accidents de travail et des maladies professionnelles et donc par ce lien-là de la faute inexcusable de l'employeur. C'est effectivement une juridiction qui diffère un peu du conseil de prud'homme puisque nous avons devant le pôle social un magistrat professionnel, c'est-à-dire issu de l'École nationale de la magistrature, qui est accompagné néanmoins de 2 assesseurs qui sont souvent, mais pas toujours, eux-mêmes conseillers prud'homaux. Donc ils connaissent la réalité du terrain et donc c'est pour ça que c'est une formation collégiale avec ce regard très juridique, très proche des lois et de la façon dont c'est censé, dont les événements doivent se dérouler, et de conseillers qui, eux, connaissent la réalité de l'entreprise et donc qui ont un regard parfois très technique, très intéressant, notamment pour ce qui concerne la faute inexcusable.
Non, merci pour toutes ces précisions. Effectivement, ça reste le pôle social un contentieux, enfin, moi, que je considère très technique, effectivement. Donc, c'est adressé à des avocats qui pratiquent ce contentieux. Le conseil de prud'homme est très technique aussi, mais alors là, ce sont des magistrats non professionnels, donc des représentants des employeurs, des représentants des salariés.
C'est ça.
C'est que les employeurs, enfin, que les employeurs. Que les auditeurs l'aient bien en tête. Là, au conseil de prud'homme, on est devant des magistrats non professionnels.
Tout à fait, qui reçoivent des formations par leur syndicat. Alors, l'obligation de formation a d'ailleurs été renforcée. Mais effectivement, c'est des gens qui travaillent au quotidien, qui sont soit côté salarié, soit côté employeur. Donc, des gens qui travaillent, et même parfois des avocats, dans les formations prud'homales. Oui. Mais voilà, c'est des gens qui n'ont pas eu de formation avant, enfin une formation en tout cas aussi poussée que celle de magistrats professionnels en droit. Ils n'ont pas nécessairement fait d'études de droit. Leur obligation de formation est renforcée depuis quelques années, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est parfois une problématique que l'on rencontre. Et c'est pour ça que quand on organise nous aussi des formations à l'ordre, on invite, dans la mesure du possible, les conseillers prud'homaux à se joindre à nous pour avoir des échanges de points de vue. Et on a vu également des conseillers prud'homaux assister à des formations organisées par les écoles d'avocats. Et on voit que c'est très enrichissant pour tout le monde. Donc on organise des formations avec les magistrats, mais également avec les conseillers, parce qu'on se rend compte à quel point c'est utile de part et d'autre.
Je l'imagine. Et puis je rappelle toujours aussi à ce micro que les avocats ont une obligation de formation continue, donc les avocats du barreau du Val d'Oise notamment se forment chaque année, les conseillers prud'homaux le font aussi de leur côté, mais voilà, donc les avocats du barreau du Val d'Oise sont des avocats formés, on est contrôlé, hein, c'est une obligation de formation, le bâtonnier s'assure que chacun effectue ses heures de formation, à défaut on peut même avoir des sanctions disciplinaires. Donc voilà, en tout cas la certitude pour les auditeurs auditrices et clients d'avoir des avocats formés et puis surtout au jour des changements législatifs, parce que la difficulté de ce métier d'avocat, c'est quand même de manier des règles qui sont en perpétuelle modification, avec des temps d'application pas toujours simples à comprendre. On a des fois des règles qui s'appliquent sur ces fois rétroactivement ou qui vont changer mais avec des délais d'application. Donc je tiens à le rappeler. Et puis je voudrais juste aussi préciser, parce que je le fais toujours à ce micro, que tout le monde peut être assisté d'un avocat, que ce soit au titre de l'aide juridictionnelle si vos ressources ne vous permettent pas de pouvoir payer les frais d'intervention d'un avocat. Donc le dispositif de l'aide juridictionnelle existe. Il y a des consultations gratuites qui sont organisées par les avocats du barreau du Val d'Oise à destination des salariés ou des employeurs. Et j'aime bien aussi rappeler le dispositif de la protection juridique. Est-ce que vous l'utilisez régulièrement, vous la mobilisez dans vos cabinets?
Bien sûr, oui.
Maître Cabrel?
Bah oui, parce que quand on décide de faire une procédure, il y a quand même deux éléments qui permettent d'y aller ou de ne pas y aller. C'est d'une part les chances de succès et d'autre part le prix de la procédure. Alors si vous avez le prix de la procédure qui est tout ou partie prise en charge par un assureur, bah en réalité le choix il est quand même beaucoup plus simple pour un salarié qui va pas se dire bon bah je vais me priver de vacances ou voilà, je vais pas profiter de certaines choses parce qu'il faut que je paye ma procédure. Donc systématiquement, et je pense que tous les confrères ici l'interrogent les clients, c'est de savoir est-ce que vous avez une protection juridique qui vous permettrait de prendre en partie ou totalement en charge les frais de la procédure.
Et c'est vrai que beaucoup l'ignorent. On souscrit parfois avec notre carte bancaire ou avec notre assurance habitation. On coche une petite case sans s'en apercevoir. Et puis finalement, on cotise chaque mois pour bénéficier de cette assurance protection juridique. Donc, un simple coup de fil, effectivement, au moment où vous envisagez d'aller voir un avocat ou a posteriori d'une consultation avec un avocat, vous permet de savoir si vous avez ou pas cette assurance protection juridique. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur les consultations, effectivement, il y en a un certain nombre qui sont organisées dans le Val d'Oise. Oise et nous avons, en lien avec le tribunal, commencé à organiser des permanences pour le pôle social, donc un point d'accès au droit. Si vous déposez un recours sans avocat, parce qu'a priori, si vous en avez un, la question ne se pose pas, mais si vous n'en avez pas, depuis juillet, vous recevez avec votre accusé de réception une petite note d'information qui vous indique donc qu'il est possible de consulter un avocat lors de permanence les deuxièmes vendredis de chaque mois jusqu'à décembre. Voilà, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas fait le choix d'un avocat en amont, il est toujours possible d'en consulter un après. Et c'est vrai que pour nous, en plus, il est plutôt confortable d'être saisi assez tôt que 15 jours avant l'audience. Voilà, n'hésitez pas. Nous mettons ces outils-là en place pour les justiciables. Il faudrait s'en saisir.
Oui, il le faut. Mais c'est une initiative du barreau du Val d'Oise ou oui. Ça se fait dans d'autres juridictions?
Non, on vient de le mettre en place. Là, il y a eu la première consultation en septembre. Il y en aura une en octobre également. Avec des avocats qui pratiquent évidemment la matière, puisque vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez technique. Comme ce qu'on peut trouver en maison de justice et du droit, nous avons des consultations maintenant spécifiques pour le pôle social et notamment dans un premier temps sur ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Merci beaucoup Tiffaine Selten pour ces précisions. Je répète, vous l'avez fait, mais c'est vrai que pour être d'ailleurs inscrit sur ces listes de permanence, les avocats doivent justifier avoir fait une formation, avoir signé un contrat ordinal et avoir suivi un tuteur. Donc les avocats qui tiennent ces permanences dans le cadre du pôle social ou dans le cadre des victimologies, à chaque fois ce sont des avocats qui sont formés et je tiens à le répéter. Je vous propose, de faire une petite pause, une nouvelle pause musicale, et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission Tous les droits.
Sur cette scène qui brûle, je me sens minuscule, comme la première fois. Que votre lumière est belle, moi qui ne connais qu'elle, elle me fait peur ce soir. On se sent à la traîne quand la vie nous entraîne où l'on ne s'attend pas. Toutes ces larmes qu'on verse sur les chemins de traverse qu'on ne traverse pas. Et si ma voix tremble parfois, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Le geste compte, que faut-il que je fasse? Seigneur, je sens mon cœur serré à l'intérieur et qui manque d'espace. Si on est à la traîne quand la vie nous entraîne où l'on ne s'attend pas. Qu'importe les larmes qu'on verse sur les chemins de traverse, je les traverse avec toi. Et si ma voix tremble parfois,
pardonnez-moi,
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 pardonnez-moi.
Si mon corps chante plus fort que moi, le cœur est là, je reste là, et jusqu'à la fin.
Chante avec moi.
Sur cette scène qui brûle, je me sens minuscule comme la première fois.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Merci de nous suivre sur IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, une émission aujourd'hui consacrée aux droits du travail. Et nous poursuivons avec mes invités du jour, Laetitia Gernès, Raphaël Cabral et Tiffaine Selten. Maître Laetitia Gernès, on se retrouve pour une nouvelle question qui est la suivante. Je suis gérant d'une SARL et j'embauche un salarié depuis 2 ans. Je suis partie en congé au mois d'août 15 jours et j'ai confié à mon salarié le soin de s'occuper du magasin, ouverture, fermeture, gestion des clients. À mon retour, les clients m'informent que mon employé n'était pas présent le matin et qu'il s'est fait remplacer sans mon autorisation. J'ai convoqué mon employé qui conteste les faits. Je veux procéder à son licenciement. Comment je m'y prends ?
Vous pouvez le licencier pour faute grave, parce que c'est quand même une faute, ce que disait mon confrère tout à l'heure, hein, sur la notion de la faute grave, on y est, c'est-à-dire qu'il, délibérément, il ne s'est pas rendu en magasin, au magasin, dans le dos de son employeur, on est vraiment sur la notion de faute grave, donc c'est la procédure de licenciement qui se met en place, on le convoque à l'entretien préalable, on lui explique ce pourquoi on compte procéder à son licenciement éventuel. On recueille ces observations et ensuite on rédige une lettre de licenciement dans laquelle on indique la faute qu'on lui reproche. Alors la difficulté ensuite, ça va être effectivement les éléments de preuve. Là, il semble de toute façon qu'il y ait des clients qui puissent justifier qu'il n'a pas pris en main les missions qui lui étaient confiées. Après, le salarié aura toujours la possibilité de contester son licenciement et ce sera, quand on est sur une notion de faute grave, c'est à l'employeur de prouver les griefs qu'il reproche au salarié. Quand on est sur une faute simple, ce que disait mon confrère tout à l'heure, la faute grave, on n'a pas de préavis, on n'a pas les indemnités conventionnelles quand on est salarié, mais c'est à l'employeur de démontrer que la faute pour laquelle il a licencié le salarié était fondée. Quand un employeur décide de licencier pour une faute simple, c'est-à-dire une faute constituée mais qui n'a pas empêché notamment d'exercer le préavis, c'est alors au salarié de démontrer qu'il n'a pas commis la faute qui lui est reprochée. En fait, ça modifie la notion de preuve.
D'accord, donc il y a des règles, il y a une notion de la charge de la preuve en fonction du type de licenciement.
C'est très important. Il n'y aura pas les mêmes indemnités à verser, il n'y aura pas le même fonctionnement de la preuve si on part ensuite en contentieux judiciaire.
D'accord. Et alors là, par exemple, je vous pose à tous cette question, vous avez peut-être déjà eu des situations comme celle-ci. Est-ce qu'un employeur, il peut mettre, par exemple, une caméra dans son magasin et regarder tout ce qui se passe dans le magasin pendant qu'il est en vacances ?
Alors, je crois que c'est une question qu'on va devoir traiter... un peu plus tard.
Voilà, c'était un teasing.
Donc c'est un teasing.
On va y répondre. C'est vous, Maître Cabral, qui allez répondre d'ailleurs. Ah, c'est pour ça, d'accord, très bien. Donc vous nous réservez cette réponse. Oui, mais c'est aussi... donc là, on a le cas d'un employeur. On a parlé des salariés qui peuvent consulter un avocat, etc. Mais les employeurs peuvent aussi faire cette démarche, être assistés, notamment dans le cadre de la rédaction d'une lettre de licenciement. Parce que,
bien sûr,
sauf erreur de ma part, c'est la lettre de licenciement qui fixe un peu les termes du litige, notamment en matière de faute grave.
Bien sûr. La procédure de licenciement, elle est tant sur la forme que sur le fond, assujettie à des règles qu'il faut connaître avant de la mettre en place. Donc c'est vrai qu'être accompagné d'un avocat dès le début de la mise en place d'un licenciement d'un salarié, c'est important parce que quand il va contester ensuite, l'employeur va être tenu par les termes de la lettre de licenciement, même si le salarié peut faire aujourd'hui des demandes de précision sur les motifs de cette lettre. Néanmoins, c'est sûr qu'on ne peut pas rajouter en cours de procédure des éléments qui n'auraient pas été indiqués. Il y a quand même des règles strictes qui nécessitent, à mon sens, d'être assisté d'un avocat dès qu'on le met en place, pas seulement s'il y a ensuite un contentieux.
Très bien, merci pour ces précisions, parce que l'intelligence artificielle... et là, il va falloir qu'on compose avec. J'imagine qu'on peut, grâce à ChatGPT notamment, faire des lettres de licenciement un peu type, mais ça n'exclut pas le recours à un avocat pour s'assurer qu'on est bien dans les clous, qu'on a bien suivi la procédure, et puis anticiper aussi même les risques financiers en cas de perte si on est débouté, vous m'avez compris, si le salarié effectivement obtient gain de cause, il y a un risque financier pour l'entreprise. C'est également le rôle des avocats d'anticiper ce risque financier, n'est-ce pas ?
Mais oui, et puis surtout que le risque avec l'intelligence artificielle, c'est de ne pas poser la bonne question, donc de ne pas avoir la bonne réponse. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Donc l'avocat sait quelle est la question à poser et trouve en conséquence la réponse appropriée, ce qui n'est pas encore le cas de l'intelligence artificielle. Après, sur le risque financier, évidemment, on connaît aussi les règles applicables. Il y a des barèmes, il y a des calculs à faire qui sont fondés sur les bulletins de salaire qu'on doit réclamer. Il y a des prix, enfin, il y a ce qu'on doit prendre en compte, ce qui est exclu. Donc, effectivement, le savoir-faire de l'avocat est important. Ses compétences, c'est exactement ce que disaient mes confrères tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on rejoint une matière très technique en accompagnant de l'humain. Et c'est la technique là que l'avocat normalement maîtrise.
Oui, alors nous, on peut utiliser l'intelligence artificielle parce qu'on sait lui poser les bonnes questions. Mais c'est déterminant, ça, parce que c'est un outil dont on doit tous se saisir. Nous, on sait lui poser les questions dans nos domaines d'intervention. Voilà. Donc, méfiez-vous, voilà, lorsque vous avez recours tout seul à des réponses en disant, bah oui, mais moi, l'intelligence artificielle, je lui ai posé ma question lors du travail, elle m'a dit ça. Oui, effectivement, si vous lui avez pas posé la bonne question, vous n'aurez pas la bonne réponse, en définitive. Merci pour ces précisions. Maître Raphaël Cabral, une nouvelle question pour vous. Je suis prestataire dans une société depuis 10 ans en CDI. Le client ne veut plus renouveler le contrat de mon employeur et mon employeur veut me licencier. Ce licenciement peut-il être considéré comme économique ?
Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la perte d'un marché, et c'est l'air d'être la situation donc, de votre auditeur, ne peut pas justifier en soi un licenciement pour motif économique. Ça, c'est pas possible. C'est jugé, archi-jugé par les chambres sociales en France. Après, c'est vrai que s'il y a une perte d'un marché et que ça entraîne finalement des difficultés économiques, l'employeur peut tout à fait envisager de procéder à un licenciement économique. Alors, le licenciement économique présente plusieurs caractéristiques. Premièrement, c'est pas inhérent à la personne du salarié. Deuxième chose, il doit y avoir une cause économique, c'est-à-dire que l'entreprise doit rencontrer des difficultés économiques. Alors ça va par la baisse du chiffre d'affaires, la baisse de la trésorerie, la baisse d'un ce qu'on appelle dans le code du travail un indicateur économique. Donc il faut qu'il y ait au moins une cause économique ou donc une nécessité de réorganisation de l'entreprise. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est les conséquences, c'est-à-dire soit la suppression d'un poste, soit la transformation ou la modification qui a été proposée aux salariés. Par exemple, on n'a plus l'argent de te payer, donc il faut passer à mi-temps, il faut changer tes horaires, il faut changer tes fonctions, et le salarié refuse. Donc pour répondre aux salariés, en soi, la perte d'un marché, non, ça peut pas justifier d'office un licenciement économique, mais si la perte de ce marché implique une perte importante de chiffre d'affaires longue sur la durée et que là l'employeur est dans la difficulté et se dit comme on l'a affecté chez tel client, on a plus besoin, donc on va peut-être procéder à la suppression de son poste, ça pourrait justifier un licenciement économique, mais pas immédiat.
Très bien, merci pour cette précision. Donc j'invite l'auditeur à consulter un avocat, notamment maître Raphaël Cabral, s'il veut en savoir plus sur ce potentiel licenciement. Maître Tiffany Selten, une nouvelle question pour vous. Je suis arrêtée depuis plusieurs mois suite à un burn-out. La CPAM refuse de reconnaître le caractère professionnel de ma maladie. Que puis-je faire ?
Alors, dans ce cas, effectivement, le burn-out, on en entend de plus en plus parler, mais il faut savoir que pour l'assurance maladie, une maladie peut être d'origine professionnelle quand elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, ou lorsqu'elle n'est pas désignée dans un tel tableau, mais qu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente avec un taux d'au moins 25%. Ce que je viens de dire est très technique, mais pour simplifier les choses, les maladies professionnelles, pour beaucoup, sont effectivement inscrites dans un tableau. Donc, c'est des maladies qu'on considère un peu comme reconnues et plus ou moins habituelles selon certains métiers. Et quand la maladie ne rentre pas dans ce tableau, parce que c'est une maladie un peu nouvelle ou où on n'a pas encore établi forcément tous les liens, il va y avoir cette nécessité d'avoir un taux d'incapacité d'au moins 25% et il faudra ensuite établir qu'il y a un lien essentiel et direct avec le travail habituel de l'assuré. Le burn-out, à ce jour, ne rentre pas dans le tableau de maladie professionnelle. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas saisir l'assurance maladie et ensuite entamer les démarches, mais c'est vrai qu'on vous facilite un petit peu moins la tâche. Si vous avez fait une demande de maladie professionnelle à l'assurance maladie en ce qui concerne un burn-out et qu'elle vous l'a refusé, vous avez donc reçu un refus de prise en charge et il est mentionné généralement sur ce courrier que vous pouvez saisir ce qu'on appelle la commission médicale de recours amiable dans un délai de 2 mois à partir du moment où vous avez reçu ce courrier de l'assurance maladie. La commission médicale de recours amiable va, elle, avoir un délai de 4 mois pour décider si oui ou non ce que vous avez déclaré est considéré comme une maladie professionnelle. Compte tenu, et on le sait aujourd'hui, et nous praticiens, on le constate au quotidien, des difficultés de traitement, parce qu'il y a un manque de personnel au sein de l'assurance maladie, vous n'avez pas toujours une réponse dans le délai de 4 mois qui est imparti à la commission médicale de recours amiable. Donc on a souvent ce qu'on appelle des décisions implicites, parce qu'au bout de 4 mois, si vous n'avez pas de réponse, on considère que c'est un refus. Donc soit vous avez une décision explicite d'accord ou de refus, c'est le mieux, mais malheureusement ça n'arrive pas souvent, soit vous avez une décision implicite, donc de refus, et vous avez dans ce cas-là un délai de 2 mois pour saisir le tribunal judiciaire, et donc ce fameux pôle social dont on parle depuis un petit moment maintenant, et ces délais sont pour le coup extrêmement courts, et c'est vrai que nous on le voit dans nos cabinets, les gens viennent nous voir, ils ont parfois reçu la décision depuis un mois et demi, voire ils ont passé le délai, et c'est vrai qu'il y a des dossiers malheureusement qui ne vont pas être pouvoir traités par le tribunal et je l'ai vu encore l'autre fois en audience une personne qui avait passé un délai de 2 mois pour saisir la juridiction. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, ne pas hésiter à aller voir un avocat dès que vous recevez une décision de l'assurance maladie pour voir si oui ou non votre dossier peut justifier une saisine de la juridiction a posteriori pour une reconnaissance en maladie professionnelle.
Et d'où l'importance de ces fameux délais qui sont mentionnés normalement dans les décisions. Alors quand il y a un refus implicite, évidemment non, hein, mais sinon les voies et délais de recours sont indiqués dans les...
Tout à fait, l'assurance maladie, ça arrive qu'il y ait quelques bugs, mais pour autant, le plus souvent, effectivement, ces délais sont indiqués. Mais c'est bien le problème avec les décisions implicites, c'est que on attend une décision et donc on se dit qu'elle va arriver et on oublie que le délai, lui, continue à courir. Et donc c'est vrai que généralement, quand on a des problèmes de procédure, c'est plus souvent à cause de ces décisions implicites. Mais voilà, il faut effectivement lire le courrier. Quand on a une difficulté à le lire, ne pas hésiter à se faire aider, en l'occurrence d'un avocat, mais pas seulement, mais voilà, pour être sûr d'avoir bien compris la décision qu'on a reçue et quelles sont les voies de recours et que vous le rappelez, sous quel délai.
Bien lire tout ce qui est écrit sur les décisions en matière d'accident du travail, maladie professionnelle. On l'a vu dans des émissions en droit public où les voies et délais de recours sont notifiés dans les décisions. Donc, tout ce qui est écrit en petit, en bas des courriers des différentes administrations, il faut les lire. Voilà, c'est très important. Et puis, donc, le burn-out donc, n'est toujours pas dans le tableau des maladies professionnelles à ce jour, c'est ça?
Pas encore. Après, au vu du nombre de cas déclarés, on peut penser qu'il va y avoir... On peut espérer, en tout
ça
cas.
Ça fait longtemps.
Ça a été évoqué,
mais à ce stade, on n'a pas encore de prise de position claire en ce sens. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on appelle le mal du siècle, c'est le cancer au XXe siècle, le burn-out pour le XXIe siècle. Il va falloir se saisir du problème, parce que c'est vrai que c'est des salariés qui sont en souffrance au travail. Et ce fait, finalement, ce terme de burn-out ne signifie pas grand-chose pour l'assurance maladie. Parce que hors tableau, alors que c'est une réalité que nous, on rencontre de plus en plus dans nos quotidiens.
Mais c'est un phénomène que j'avais beaucoup étudié il y a fort longtemps, lorsque j'exerçais en droit du travail. Et un phénomène que je ne connaissais pas, en revanche, et que j'ai découvert à l'époque, c'est le bore-out. Ouais. Donc le fait de s'ennuyer, effectivement, c'est mis au placard en définitive.
C'est le pendant. Mais c'est un agissement, par exemple, qui est caractéristique d'un harcèlement moral.
Exactement. Tout à fait.
Preuve que le harcèlement moral, ça peut être tout et son contraire. Ça peut être la surcharge ou le fait de se désintéresser totalement d'un salarié en ne lui confiant plus aucune tâche.
Non, merci pour toutes ces précisions. Une nouvelle pause musicale et on se retrouve après avec mes invités du jour en droit du travail. À tout de suite.
I love you Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Vous écoutez l'émission Tous les droits sur IDFM Radio. Nous poursuivons nos entretiens avec mes trois avocats du barreau du Val-d'Oise en droit du travail. Nous répondons ce matin à vos questions. Maître Laetitia Gernaise, une nouvelle question pour vous. Je suis salariée en CDI dans une entreprise de prestation de nettoyage. Je travaille depuis 5 ans le matin, de 5h à 9h. Mon employeur me demande désormais de travailler le soir de 18h à 20h. Puis-je refuser la modification de mes horaires ?
Alors, comme souvent, la réponse n'est pas automatique. Ça va dépendre de la manière dont le contrat de travail est rédigé. Si dans le contrat de travail, les horaires spécifiques 5-9 heures sont prévus, alors vous pouvez refuser la modification de 18 à 21 heures. S'il est prévu le temps de travail global et que on vous dit que votre employeur vous fait basculer le soir, dans ce cas-là, pour refuser, il va falloir, vous pouvez refuser quand même, mais il va falloir invoquer des justificatifs d'atteinte à votre vie privée, de contraintes d'organisation, de droit à la, enfin, il y a plusieurs justificatifs, mais effectivement, normalement, quand c'est le temps de travail qui est prévu, c'est un petit peu moins simple de refuser tel quel. Il va falloir justifier votre refus. Je laisse compléter mes confrères s'il manque des éléments, mais j'ai essayé d'être synthétique.
Donc si on refuse, qu'est-ce qui se passe alors ?
Si on refuse la modification, c'est pas un grief qu'on peut formuler à l'égard du salarié, puisqu'il faut qu'il donne son accord sur une modification substantielle de son contrat de travail. Si l'employeur n'arrive pas à l'avoir, tant pis pour l'employeur.
Il trouve quelqu'un d'autre pour faire les 18-20 heures. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Vous vouliez rajouter quelque chose, Maître Tiffen Selten ?
C'est effectivement toute la nuance entre les modifications des conditions de travail et la modification d'éléments substantiels du contrat de travail. C'est vraiment toute la nuance, et c'est vrai que parfois c'est un regard de professionnel qui pourra vous donner la subtilité entre les deux, mais ça n'emporte effectivement pas les mêmes conséquences.
Oui, parce que c'est sur ces questions-là, enfin, il y a aussi beaucoup de jurisprudence, en fait. On éclaire aussi nos réponses en fonction des décisions qui sont rendues par la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême, voilà, ou les cours d'appel en droit social, n'est-ce pas, hein. C'est vraiment, vous utilisez ça au quotidien, ces jurisprudences.
Oui, parce que souvent, lorsque vous avez des salariés ou des employeurs qui sont confrontés à ce type de questions, il y a quand même pas forcément des choses ou des questions qui sont aussi évidentes, quoi. C'est beaucoup plus nuancé. Est-ce que j'ai le droit de mettre un salarié, il est dans une boutique à 15 ou 20 kilomètres de la boutique, bon, est-ce que c'est une modification du contrat de travail substantielle ou pas? Donc c'est toujours assez nuancé, quoi.
Oui, puis après, s'il y a un conflit, c'est l'appréciation des magistrats, ouais, sur la situation, voilà, qui peut aussi différer. Merci en tout cas pour cette question et ces réponses. Maître Raphaël Cabral, une nouvelle question pour vous. On en parlait avant la coupure musicale. C'est une question des caméras. Mon employeur a installé des caméras de vidéosurveillance dans le magasin où je travaille depuis 10 ans sans m'en informer. Est-ce autorisé ? Peut-il utiliser la vidéosurveillance comme moyen de preuve contre moi ?
Alors, la première question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a la possibilité d'installer des caméras de télésurveillance sur un lieu de travail sans en informer le salarié ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend quelle est l'utilité de l'utilisation ou de l'installation de cette télésurveillance. Si c'est pour surveiller l'activité des salariés, ça, il faut obligatoirement l'accord et l'information des salariés. Si, en revanche, vous installez une caméra de sécurité de télésurveillance dans un entrepôt, dans un lieu de stockage où les salariés n'exercent pas, là, il n'y a pas d'obligation d'information du salarié. Donc, en réalité, ça dépend. Est-ce qu'il y a potentiellement une possibilité de surveillance ou pas du salarié par ce système. La deuxième question, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser comme moyen de preuve ? Alors là, je pense qu'il faut quand même trois conditions pour utiliser la vidéosurveillance comme un élément de preuve devant le conseil de prud'homme. La première condition, c'est l'information du salarié si elle est requise. La deuxième condition, c'est une certaine loyauté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le système de vidéosurveillance exclusivement pour surveiller faits et gestes du salarié. Donc là, si la condition de loyauté fait défaut, bien évidemment, la preuve ne sera pas recevable. Et la troisième condition, c'est en réalité une mise en balance, parce que le droit, c'est souvent les mises en balance entre des principes qui sont contradictoires, entre d'une part le respect de la vie privée du salarié. Je n'ai pas à être fliqué sur mes moindres faits et gestes dans le cadre de mon activité au sein de l'entreprise, mise en balance avec le principe du droit à la preuve qui est invoqué ou qui sera invoqué par l'employeur. Étant précisé que les juges, bah, ils font cette mise en balance et ils vont essayer de vérifier si l'utilisation de cette vidéosurveillance, c'est véritablement indispensable pour l'employeur pour démontrer, par exemple, une faute, un grief commis par le salarié, et que l'utilisation de ces éléments-là est strictement proportionnée. Donc c'est ce qu'on appelle un contrôle de proportionnalité. Mais voilà, il y a quand même un vrai débat qu'il va y avoir sur la recevabilité. Après, les questions juridiques, d'une certaine manière, c'est intéressant. Mais lorsque, par exemple, vous plaidez pour un employeur, si vous apportez des éléments issus d'une télésurveillance qui démontre le salarié, le fait même qu'il y ait un débat sur la recevabilité ou pas de la preuve va quand même influencer, malgré tout, le conseil de prud'homme. Même si on rejette la preuve, le conseil de prud'homme va en prendre connaissance. Et forcément, il va être influencé par ce qu'il a vu et les débats qu'il y a eu autour de la recevabilité de cette preuve.
Merci pour toutes ces précisions. Vous avez tous les deux, avec Medjernez, répondu à mes questions en disant « ça dépend ». En fait, tous les avocats à ce micro, quand je leur pose une question, disent « ça dépend ». Et c'est ça la complexité des questions qu'on nous pose et la nécessité d'avoir recours à des avocats qui maîtrisent bien leur matière. D'ailleurs, je pourrais peut-être appeler cette émission « ça dépend ». Ça dépend de vous, ça dépend de votre cas. Merci pour toutes ces précisions. Maître Tiffaine Selten, une nouvelle question pour vous. J'ai été déclarée inapte par le médecin du travail après un arrêt maladie. Que puis-je faire ?
Vaste question qui mériterait un certain nombre de développements, mais pour faire synthétique, quand on a été déclaré inapte par le médecin du travail, il faut d'abord se demander si cette inaptitude en fait a une origine professionnelle ou non. Si vous avez été en accident de travail ou en maladie professionnelle préalablement à cette inaptitude, souvent on peut penser effectivement que le lien entre votre accident de travail, la maladie professionnelle et l'inaptitude est établi. Néanmoins, la jurisprudence est claire à ce sujet depuis maintenant de nombreuses années. Il suffit que l'inaptitude ait une origine partiellement professionnelle. C'est-à-dire que même, quand bien même il y a eu un arrêt maladie qu'on appelle simple, entre votre accident de travail ou maladie professionnelle et votre inaptitude, on pourra considérer que votre inaptitude a une origine professionnelle. Je ne vais pas parler aujourd'hui du reclassement très spécifique en matière d'inaptitude, mais pour que vous ayez quand même une idée de la procédure. Une fois que vous êtes déclaré inapte, l'employeur va ou non chercher à vous reclasser, va vous convoquer à un entretien préalable et donc vous licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Simplement, l'inaptitude, selon son origine, aura des conséquences financières qui peuvent être assez importantes, puisqu'une inaptitude d'origine non professionnelle vous ouvre droit à votre indemnité de licenciement, qu'elle soit conventionnelle ou légale, alors qu'une inaptitude d'origine professionnelle vous donnera droit à une indemnité qu'on dit spéciale, c'est-à-dire une indemnité licenciement doublée, généralement l'indemnité légale doublée, sauf à ce que la convention collective le prévoit spécifiquement, et également une indemnité compensatrice qui, pour faire simple, correspond à votre indemnité compensatrice de préavis. Donc financièrement, vous pouvez retrouver tout simplement du simple au double, ce qui n'est pas négligeable. Et aujourd'hui, les avis d'inaptitude ne précisent pas cette origine professionnelle ou non. L'indice le plus important, c'est que le médecin du travail vous remette, au moment de l'avis d'inaptitude, ce qu'on appelle un CERFA, un formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, qui vous permettra donc de toucher des indemnités journalières, mais ce document n'est remis par le médecin du travail que lorsqu'il considère que l'inaptitude est d'origine professionnelle. Donc c'est pour ça qu'effectivement, avoir connaissance de ses droits en amont vous permet de faire plus attention et donc, a posteriori, de faire valoir vos droits de la manière la plus efficace possible.
Merci pour cette précision synthétique, mais qui permet effectivement d'appréhender la complexité de cette question et la nécessité, voilà, d'avoir des réponses juridiques d'un professionnel du droit social. Maître Laetitia Gernaise, nous entamons notre dernière ligne droite de cette émission consacrée au droit du travail. Une dernière question pour vous, qui tombe à propos puisque les fêtes de fin d'année vont arriver. J'ai une entreprise de 20 salariés et je souhaite organiser une réception en présence des salariés avec nos clients en dehors des heures de travail. Puis-je imposer la présence de mes salariés à cet événement ?
Alors, pour pas répondre par ça dépend, j'aurais tendance à dire que sur cette question, pour ce cas particulier, oui, parce qu'il y a la présence des clients. Donc, on peut considérer que c'est une soirée d'entreprise obligatoire. Sinon, il faut partir du principe que si on est sur un événement qui est considéré comme professionnel en lien avec l'activité, si c'est des séminaires, des réunions hors du temps de travail, l'employeur peut imposer à ses salariés d'être présents et dans ce cas-là, ce sera considéré comme du temps de travail effectif. Mais il faut que c'est un lien avec l'activité professionnelle. Si on est sur des soirées pour réunir les salariés avec juste l'optique voilà de passer un bon moment, et dans ce cas-là, c'est facultatif et on ne peut pas imposer à un salarié d'être présent.
D'accord. Donc les fêtes fin d'année, Halloween, machin, sans clients, c'est...
Là, dans la question, ce qui me semble important, c'est qu'effectivement, il y a la présence de clients. Donc on est quand même sur l'image de l'entreprise, le travail. La présence, pour moi, est obligatoire.
Merci, Maître Laetitia Gernaise. Maître Raphaël Cabral, une dernière question pour vous. J'emploie 10 salariés dans le domaine du conseil et les salariés disposent chacun d'un bureau. J'envisage cependant d'interdire la cigarette électronique en raison de désagréments causés à certains salariés. Comment puis-je procéder ?
Alors, pour répondre, déjà, je vais vous faire part de ma grande surprise parce que je suis allé quand même vérifier les quelques points pour pouvoir vous apporter une réponse précise. Il y a un principe qui est fixé dans le Code de la santé publique, c'est le principe d'interdiction de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Bon, alors ça a été précisé par ce qu'on appelle des dispositions réglementaires, et dispositions réglementaires précisent les lieux, donc que ces lieux de travail sont des lieux de travail soumis à interdiction de vapoter, s'entendre des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts et affectés à un usage collectif à l'exception des locaux qui accueillent du public. Donc, pour faire simple, il y a deux hypothèses. Il y a une interdiction de vapoter lorsque ça correspond à des lieux collectifs, à usage collectif. Donc, on peut pas vapoter dans une cantine, on peut pas vapoter donc dans un couloir d'une entreprise, dans un espace de repos. Donc ça, c'est interdiction. Et si vous avez un salarié qui le fait, il est passible d'une contravention de quatrième classe, c'est-à-dire jusqu'à 750 euros. En revanche, lorsqu'on regarde la disposition réglementaire, une lecture négative n'empêche pas donc un salarié, d'une part, de fumer dans un bureau individuel, parce que l'interdiction de vapoter, elle ne concerne que les bureaux à usage collectif. Donc un bureau individuel, manifestement, on peut fumer dans son bureau sa cigarette électronique sans difficulté. Et ça a été d'ailleurs confirmé, pour vous dire, par le ministère de la Santé. Deuxième hypothèse, on peut fumer sa cigarette électronique dans des locaux qui accueillent du public. Donc l'entrée, par exemple, d'un magasin, ça paraît assez étonnant, mais c'est la lecture de cette disposition. C'est pour ça que j'ai été très surpris des réponses que j'ai pu trouver pour pouvoir éclairer cet auditeur. Alors, qu'est-ce que doit faire l'employeur ? D'une part, il doit obligatoirement mettre en place dans les locaux donc une information indiquant que le vapotage est interdit dans les lieux collectifs qui sont fermés ou couverts. Et ça, c'est prévu par le Code de la santé publique. La deuxième chose que pourrait faire l'employeur aussi, c'est d'intégrer cette interdiction de vapotage dans le règlement intérieur. Alors pour ça, il faudrait quand même quatre conditions, c'est qu'il modifie ce règlement intérieur. Donc il faudrait que ça soit soumis à l'avis du CSE, il faudrait qu'il y ait une mesure de publicité, il faudrait que ce règlement intérieur soit déposé au Conseil de Prud'homme, au greffe du Conseil de Prud'homme, et il faudrait que cet exemplaire modifié soit envoyé à l'inspecteur du travail. Donc c'est quand même assez lourd comme procédure. Je pense que la solution la plus simple, c'est dans les espaces collectifs, eh bien, de mettre un écriteau selon lequel interdit de vapoter.
Bon, merci pour cette précision. Je partage votre surprise, hein, donc à vos vapoteuses, mais là, on a le droit de le faire. Très bien. Merci, Maître Cabral. Maître Tiffel-Selten, une dernière question pour vous, et ce sera déjà la fin de notre émission. Je ne suis payée que 35 heures par semaine, alors que je travaille souvent plus. Que puis-je faire ?
Vous me demandez une réponse brève, ce qui pour un avocat n'est pas toujours si simple. En matière d'heures supplémentaires, la jurisprudence évolue mais reste assez constante sur ce point. On parle de charge de la preuve partagée. C'est-à-dire que le salarié doit apporter un certain nombre d'éléments suffisamment précis et en défense, l'employeur devra démontrer que les horaires prétendument effectués par le salarié ne sont pas établis. Ça veut dire pour le salarié qu'il faut, à défaut d'éléments existants, enfin d'éléments de pointage par exemple, existants au sein de la société, noter les horaires qui sont effectivement faits matin et soir, les temps de pause également, hein, il faut quand même être un minimum loyal pour démontrer qu'effectivement on dépasse les 35 heures et que ça ne correspond pas à la rémunération qui est payée chaque mois par le salarié, par l'employeur. Évidemment, les heures supplémentaires, et je le rappelle puisque c'est une question que j'ai eue encore récemment, elles se comptent à la semaine, pas seulement au mois. Donc c'est pour ça que voilà, notez même dans votre agenda. Hein, j'ai commencé à telle heure ce matin, j'ai fini à telle heure ce soir. Mais voilà, c'est pas au mois de ah je crois que j'ai fait 8 heures supplémentaires, mais je sais pas vraiment comment elles sont. Comment les détailler, parce que du coup le décompte de ces heures supplémentaires donc est à la semaine, parce que leur majoration se fait au-delà, enfin pour les 8 premières heures par semaine et au-delà de ces huit heures, la majoration est différente, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire son maximum. On peut établir ces relevés a posteriori de la rupture du contrat de travail, mais plus vous avez d'éléments précis et plus vous aurez de chances quand même d'emporter la conviction des juges.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous remercie tous les trois vivement d'avoir répondu aux questions des auditeurs d'IDFM Radio en droit du travail. Maître Gernès, vous reviendrez nous voir ?
Oui.
La voisine d'IDFM Radio. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Maître Raphaël Cabral, vous avez passé un bon moment avec nous.
Très bon.
Merci, vous reviendrez nous voir.
Oui, en droit du travail.
En droit du travail. On vous a vu en droit public, vous êtes en droit du travail. Voilà, merci beaucoup pour vos compétences. Maître Tiffel-Selten, merci à vous.
Merci à vous de m'avoir invité.
Je suis ravie de vous avoir enfin eu au micro de mon émission. Merci à vous. Francky, merci pour la technique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. Le prochain numéro de l'émission Tous les droits, ce sera le 3 novembre, une émission consacrée aux droits immobiliers. Si vous avez des questions sur cette thématique, je vous invite à me les adresser à l'adresse tldidfm@gmail.com. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les droits sur IDFM Radio. Belle journée et bonne semaine. We'll be right back.
IDFM Radio, 98 FM.
IDFM Radio vous invite à sa Halloween Party, vendredi 31 octobre, de 18h30 à 23h. Rendez-vous à la salle des fêtes d'Angers-les-Bains, avec vos plus beaux déguisements pour une soirée dansante endiablée. Sur scène, les artistes Clara Viola et le groupe Slow Rock. Distribution de bonbons, DJ, tombola, diseuse de bonne aventure, les contes qui font peur et bien d'autres surprises. 7€ l'entrée sur place et 5€ via Hello Asso. Gratuit pour les mineurs, accompagné d'un adulte. Halloween Party, vendredi 31 octobre, à partir de 18h30 avec IDFM Radio à la salle des fêtes d'Enghien-les-Bains.
Vous êtes commerçant, artisan ou association et souhaitez diffuser des spots publicitaires sur notre antenne? Contactez-nous au 01 34 12 12 22 ou par mail à contact@idfmradio.fr.